France Culture.
Bonjour Jean-Marie Laclaftine.
Bonjour.
Hier, pour le troisième épisode de Nos Avoix Nues, vous nous avez parlé de la façon dont vous travaillez les textes, la façon dont vous suivez, accompagnez les auteurs et les autrices quand vous choisissez de publier leurs textes. Pour ce deuxième temps du métier d'éditeur, je voudrais que nous parlions, si vous le voulez bien, du monde de l'édition, d'un pan de l'édition dont on parle souvent un peu moins, c'est-à-dire le marché et l'évolution de ce milieu. Déjà pour commencer, j'ai intitulé cet épisode « Le meilleur de son temps ». Le meilleur de son temps fait référence à Georges Lambrich, vous nous racontez ?
Oui, parce que Georges Lambrich a commencé son travail d'éditeur chez Minuit. Et quand il est venu travailler chez Gallimard, il était appelé par Gaston. Et Gaston lui a fait un contrat sur lequel il était stipulé que Georges donnerait le meilleur de son temps à l'édition. Et la formule est pas mal trouvée. Ça paraît un peu étrange, un peu féodal presque. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est ce que faisait Georges, c'est ce que je fais en fait aussi.
Vous avez la même formulation sur votre contrat ?
Non.
Vous le regrettez ?
Non, pas du tout.
Ça va de soi.
Oui.
On n'a pas besoin de le stipuler.
Oui. D'autant plus que Antoine Gallimard m'a toujours laissé complètement la bride sur le coup. C'est-à-dire que c'est moi qui ai organisé mon temps, qui ai choisi ma façon de travailler. Là-dessus, j'ai bénéficié d'une liberté vraiment extraordinaire dont je lui sais gré et qui m'a permis aussi de bien travailler. C'est-à-dire de me consacrer entièrement à la passion de la lecture, selon les modalités qui me convenaient.
Il y a un sujet qu'on n'a pas complètement abordé dans l'émission précédente concernant votre métier d'éditeur par rapport à votre travail d'auteur. Vous disiez que ça pouvait être nourrissant d'être auteur par rapport à votre métier d'éditeur, c'est-à-dire dans le travail que vous pouvez faire avec les auteurs. Est-ce que l'inverse est vrai ? Est-ce que le fait de lire autant les autres n'est pas handicapant par rapport à votre travail d'auteur ? Et quelle est aussi la marge de manœuvre ou le temps que vous avez pour votre travail d'auteur ?
Le temps est élastique, c'est-à-dire que quand on veut trouver le temps, on le trouve. Moi, j'ai la chance de pas trop dormir, donc ça me laisse quand même pas mal de temps pour moi, mais encore une fois, c'est pas le critère. Il faut avoir envie, c'est une question de désir, écrire. Moi, par exemple, ça fait 6 mois que j'ai rien écrit, à part des notes de lecture. Parce que je suis à un moment de ma vie d'écrivain qui est comme ça, quoi. Après des livres d'autobiographie, je cherche un peu la voie, enfin, ce qui pourrait être la suite. Donc, c'est pas une question du temps, c'est plus une question de disponibilité et de capacité à cloisonner son propre univers pour ne pas se laisser envahir par celui des autres. Parce que je passe ma vie dans l'univers mental et créatif des auteurs. Donc si je n'avais pas cette capacité à me cloisonner, oui, à fermer, je serais sans doute incapable de faire mon travail d'éditeur. Et je sais que beaucoup de gens, enfin un certain nombre de personnes que j'ai vues passer au comité de lecture, ont souffert de cet envahissement. Je ne sais pas. Il y a une part d'empathie qui peut être trop violente ou trop forte, parce que les œuvres littéraires, les œuvres romanesques, elles sont extrêmement intimes, profondes. Elles parlent de l'être très profond dont elles ont jailli. Et donc, si on n'a pas une certaine retenue, une certaine distance par rapport à ça, c'est difficile. Il faut être capable, comme je pense les métiers de l'esprit, enfin la psychanalyse par exemple, dont je parle parfois avec une certaine dose de moquerie, mais que je respecte malgré tout. Eh bien, je pense que le psychanalyste, comme le médecin d'ailleurs, doit savoir garder sa distance par rapport à la personne qui est en face de lui. Et des lecteurs dans l'édition sont parfois incapables de cela et ils en souffrent et généralement ils ne font pas long feu dans le comité parce que c'est trop dur, c'est trop envahissant.
Vous parlez de distance, Jean-Marie Laclaftine. Est-ce que le fait que vous ne vivez pas à Paris est une forme de distance bénéfique aussi pour vous ?
Certainement. D'ailleurs, quand Antoine Gallimard, il y a 30-35 ans, m'a proposé de faire partie du comité, ce qui était une chance extraordinaire. J'aurais dû tomber à la renverse. Et tout de suite, j'ai été sur les freins parce que je lui dis « je veux garder du temps pour moi ». et je ne veux pas vivre à Paris. Alors il m'a regardé avec des yeux ronds, c'était un peu inattendu, et il a tout à fait respecté ça, et depuis, en effet, je ne vis pas à Paris, c'est-à-dire je viens à Paris deux jours ou deux jours et demi par semaine, je ne vais pas dans les salons, je ne vais pas dans les dîners, il y a très peu de mondanité, de lieux où se retrouve le monde de l'édition, ces lieux-là, je ne les fréquente pas.
Vous n'êtes pas au courant des potins ?
Quelques potins qui circulent dans les couloirs de Gallimard, oui, quand même.
Quand même, qui arrivent jusqu'à vos oreilles, quand oui, vous êtes là, ou même dont on vous fait part, quand même. Oui. Est-ce que, Jean-Marie Laclafine, pour parler de cet autre pan donc, du métier, qui est le pan peut-être marchand, commercial, est-ce que c'est vous, par exemple, qui traitez les contrats, ou est-ce que dans la maison Gallimard, les choses, là aussi, sont très cloisonnées ?
Les contrats, j'en discute avec les auteurs, parce qu'ils ont des desiderata, des souhaits... Et donc, je suis l'intermédiaire entre Antoine Gallimard et eux, enfin, la plupart du temps, sur la question des contrats. Mais ce n'est pas moi qui les signe, c'est Antoine. Et c'est Antoine qui accepte ou non de donner tant d'avaloirs, de signer telle clause qui est souhaitée par l'auteur. Certains auteurs sont de très bons négociateurs, d'autres s'en fichent complètement, ils lisent à peine leurs contrats.
Là aussi, on a affaire à tous les cas de figure.
Oui.
Mais depuis quelques années, sont arrivés sur le marché de l'édition française les agents littéraires, qui sont plutôt anglo-saxons à l'origine. Est-ce que cela change quelque chose dans votre relation à certains auteurs ?
À vrai dire, les auteurs dont je m'occupe n'ont pratiquement jamais d'agents.
C'est une condition pour
accepter. Non, c'est pas du tout, parce que moi, ça m'est égal, en fait. Hein, parce que les agents en France ne font pas vraiment le travail des agents dans le monde anglo-saxon, où les agents sont de véritables éditeurs. Ils travaillent sur le texte, ils discutent des projets littéraires, etc. En France, ça n'est pas vraiment le cas. Ou alors, de façon ultra minoritaire, ce sont plutôt des gens qui vont aider les auteurs qui sont un peu désemparés par rapport... aux négociations, par exemple, sur les avaloirs, sur les conditions, les dates de sortie, sur la communication. Là, les agents interviennent, ils font l'interface avec l'éditeur, et c'est eux qui s'occupent, moyennant un certain pourcentage, voilà, ils s'occupent de ces questions-là. Moi, ça me paraît assez peu utile pour l'instant, parce que je pense que les auteurs sont tout à fait capables de faire ça. On peut les aider, enfin moi je peux les aider aussi dans une certaine mesure. Et je ne vois pas en général l'intérêt qu'ils ont ou qu'ils auraient à donner 10 ou 15% de leurs bénéfices à un agent. Mais bon, moi je n'ai rien contre. Hein. Si ça peut les rassurer... Mais encore une fois, il y a vraiment très peu d'auteurs dont je m'occupe qui ont un agent.
Vous disiez dans l'émission précédente aussi que c'est pas le fait qu'un livre va se vendre qui vous intéresse quand vous choisissez d'accompagner un auteur ou de publier un texte. Et pourtant, on voit bien une certaine évolution du marché qui fait beaucoup plus la part belle à des livres entre guillemets commerciaux. Beaucoup moins de livres d'auteurs arrivent à se vendre aujourd'hui. Ceux qui se vendent se comptent sur les doigts d'une main et souvent ce sont des livres dont on dit « Ah, ils ont été construits pour être vendus ». Comment regardez-vous cette évolution-là ? Et d'abord, est-ce qu'elle est juste ? Est-ce que c'est aussi ce que vous constatez ?
Ça, c'est un constat qu'on a envie de faire, mais il est bien pessimiste tout de même. D'abord, je pense qu'il n'y a jamais eu qu'un cercle assez restreint de vrais lecteurs. Dans un pays comme la France, par exemple, il y a quelques milliers de vrais lecteurs. Au-delà, les livres qui vont au-delà des 10 000 exemplaires, par exemple, ce sont des livres qui bénéficient d'une chance, du hasard, qui sont portés par leur sujet. Alors ça, oui, je vois beaucoup évoluer ça. Aujourd'hui, les éditeurs cherchent un livre qui est un sujet. C'est un mot qui me hérisse, parce que quel est le sujet de la recherche du temps perdu ? Le sujet du voyage au bout de la nuit, mais c'est très vague comme sujet. Non, là, on cherche un sujet, je sais pas, ça va être l'inceste, ça va être...
Un sujet de société, souvent.
Voilà, oui, c'est un sujet de société, c'est clair. Ou un sujet politique. On voit bien que les livres qui marchent, dont la presse parle, dont les journalistes aiment parler, c'est ceux qui leur permettent de gloser sur un sujet, sur un pays, sur une situation sociale. Voilà, des problèmes qui sont dans l'air du temps.
Mais ça fait nécessairement des mauvais livres ?
Non, pas du tout. Ça peut en effet être de bons livres. Mais ce n'est pas vraiment ça qu'on demande à la littérature. Enfin, ça n'est pas que ça. La littérature, c'est parfois tout simplement une question de style, de langue, d'écriture. Et ça, c'est pas un sujet, évidemment. Et On a l'impression, enfin, là encore, il faut se méfier d'une tentation pessimiste, mais on a l'impression que la création poétique, la création stylistique accroche moins l'attention des critiques, des libraires, du public, et c'est un peu triste. Voilà, il n'en reste pas moins qu'il y a de très bons livres qui ont du succès, ça arrive quand même.
Dans les tendances du marché de l'édition, je suppose que vous, en quelques 30 à 40 ans dans ce monde-là, même si vous vous en tenez à l'écart, vous avez sûrement vu d'autres mode, vogue, ou même des tendances plutôt de fond. Pas forcément dans ce qui se vend, hein, mais dans ce qui s'écrit. Je pense à l'autofiction, à la littérature du réel. Est-ce que c'est perceptible quand vous recevez vos manuscrits, que vous les lisez?
Oui, c'est assez perceptible. Depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans peut-être, enfin, c'est difficile à dater, mais on voit bien que les auteurs et donc le public sont attirés par une injonction, une sorte d'injonction réaliste. Et il faut aller vers le réel. Le réel, il n'y a que ça de vrai, quoi. Or, en littérature, le réel, il n'y a pas que ça de vrai, justement. Et moi, j'apprécie particulièrement, parce que c'est un soulagement, de voir des auteurs qui font encore confiance à l'imaginaire. Je pense par exemple à Carole Martinez, qui emporte le lecteur dans un monde qui est un monde de rêve, un monde merveilleux, un monde pas du tout gentil, hein. Quand je dis merveilleux, c'est les livres de Carole Martinez sont des livres extrêmement violents, comme les contes. Mais voilà, ils font appel à l'imaginaire et on a l'impression que cette puissance d'invention de la littérature, elle a été déléguée au cinéma et aux séries. Et qu'aujourd'hui, la littérature prend en charge le réel. Et c'est vraiment très réducteur. Bien sûr, ça peut donner de très bons livres.
Les vôtres, par exemple, Jean-Marie Laclafty, oui. Se nourrissent du réel, surtout les derniers.
Les derniers, oui, mais parce qu'ils sont autobiographiques. Sinon, mes romans, pas vraiment. J'essaie d'inventer des histoires, de les entrecroiser. Je fais quand même confiance à l'invention romanesque. Et c'est ce qui m'attire et me plaît.
Ce qui ne vous empêche pas, je pense encore à Première Ligne, dont on a déjà parlé dans l'émission précédente, parce qu'en plus, dans Première Ligne, vous faites un tableau sans complaisance de ce qu'on appelle souvent la République des lettres. Donc, on part de ce que vous connaissez. Là, ça vous empêche pas, effectivement, de partir de ce que vous connaissez pour pouvoir ensuite inventer toutes sortes d'histoires, de toute façon.
Dans Première Ligne, comme dans « J'ai su que ce trésor était pour moi », et comme dans « Matin bleu », enfin, ou d'autres livre, je pars en effet d'une situation réelle. Dans Première Ligne, c'est le monde de l'édition et les difficultés passionnantes qu'éprouvent les éditeurs dans leur relation avec les écrivains et vice-versa. Mais en même temps, je multiplie les chapitres qui donnent des exemples de ce que peut être la littérature. Je fais un essai de roman historique, un essai de roman de science-fiction. Enfin, je donne des chapitres comme ça qui sont censés être ceux écrits par les auteurs qui sont en cours de désintoxication.
Est-ce que c'est, puisqu'on est sur le monde de l'édition, et qu'effectivement ce livre fait le portrait d'un monde qui est composé d'auteurs, d'éditeurs, de critiques, avec lesquels vous n'êtes pas tendre hein, d'ailleurs, même si on sent, en tous les cas pour les auteurs, et un peu pour les éditeurs, peut-être un peu moins pour les journalistes, une forme de tendresse, parce que les écrivains sont des fous graphomanes ou des obsédés, des éditeurs ne lisent pas les livres, les critiques sont des écrivains ratés, incultes, abrutis, serviles. C'est une caricature ou c'est la réalité? Vous vous déchargez, là, vous vous déculpabilisez par l'humour, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans ce texte.
J'ai raconté hier ou avant-hier dans quelles circonstances ce livre est né. Il y a beaucoup de dérision et d'autodérision. C'est-à-dire que ceux dont je parle, aussi bien les auteurs que l'éditeur, ils me ressemblent beaucoup par certains côtés. Et donc j'avais envie à la fois de laisser partir un grand rire un peu colérique, un peu angoissé. Et je l'ai fait à travers une forme romanesque comme ça qui est venue spontanément.
Mais on comprend pourquoi vous avez besoin de vous tenir à distance.
Oui, oui.
De ce monde-là.
Mais de la tendresse pour les auteurs, j'en ai immensément, vraiment. Et d'ailleurs, Roger Grenier.
Chez qui nous sommes.
Chez qui nous sommes. Quand j'ai donné le manuscrit, il l'a lu et il avait un air un peu effrayé. Il m'a dit, tu vas vraiment publier ça? Et il riait, mais en même temps, il a eu cette formule. Il m'a dit, bon, ben, ça passe ou ça casse. Hein. C'est-à-dire que si les gens comprennent que tu ne te moques pas d'eux, mais
le deuxième ou le troisième degré.
Voilà, mais que tu es vraiment avec eux, alors ça passera et ça marchera bien. Si c'est mal interprété, ça risque de casser.
Jean-Marie Lacassine, vous croyez encore à la pépite dénichée dans un manuscrit que vous recevez, vous le disiez dans l'émission précédente, par la poste, même si c'est une poste électronique aujourd'hui. Est-ce que pour autant, les exigences, vous disiez l'injonction réaliste, ça c'est dans l'écriture, dans la littérature aussi, mais l'injonction peut-être marchande fait que le métier change, fait que vous êtes un peu moins libre aujourd'hui?
C'est compliqué de répondre parce que il y a la part de l'inquiétude par rapport au monde, à l'évolution du monde de l'édition, le fait qu'il y a une concentration de plus en plus forte, qu'il y a des dangers qui sont bien visibles. Et ces dangers qui sont ceux de l'industrialisation, de l'importance de la finance et du commerce, de la prépondérance du commerce dans le travail éditorial, on voit bien que c'est un véritable danger dont on a toujours eu conscience, mais qui là, maintenant, avec, je ne sais pas, Bolloré par exemple, ça devient concret, tangible et d'autant plus redoutable.
C'est un danger pour qui, pourquoi ?
Ben pour le monde de l'édition, pour l'édition de création, pour la littérature. Parce que les nouveaux éditeurs, enfin ceux qui sont en train de pointer du nez, ce sont des gens qui vraiment ont pour objectif de faire du chiffre, et pas seulement, faire aussi de l'idéologie à travers les livres. Voilà, Monsieur Bolloré n'est pas un gentil monsieur. Donc c'est un véritable danger. Mais est-ce que pour autant ça nous empêche, nous, éditeurs de littérature, amoureux de la littérature, de faire notre travail correctement et toujours avec la même passion? Non, je ne pense pas. À court terme, en tout cas, nous ne sommes pas absolument menacés. Et bien sûr, les livres de vraie littérature, ceux que nous aimons passionnément, ils se vendront peut-être de moins en moins. C'est ce que prédisait Philip Roth. Enfin, il constatait déjà que là où il était aux États-Unis, il ne pouvait plus parler de littérature avec personne dans son entourage. Et il disait, bientôt, nous retournerons dans les catacombes. Et le cercle de lecteurs qui existera toujours, hein, le cercle de vraiment de lecteurs fervents, sera de plus en plus réduit et se retrouvera dans les catacombes de l'intelligence collective. Bon, ça, c'est une vision qui était la sienne et qui, malheureusement, fait frémir, évidemment, mais qui a une part de vérité, on voit bien, mais bon, on n'en est pas encore tout à fait là.
Vous citez Philip Roth, la même année que vous publiez, Jean-Marie Lacassine, votre première ligne, en 1999, paraissait aux États-Unis le livre d'un éditeur, André Schifrin, qui s'intitulait « L'édition sans éditeur » et qui racontait de façon prémonitoire l'histoire de sa maison, Pantheon Books, et de la concentration gigantesque du monde de l'édition. 25 ans plus tard, force est de constater qu'effectivement la concentration, le rachat des maisons s'est accéléré, y compris ici en France. Ce que les auditeurs et les auditrices peut-être connaissent moins, c'est la situation ou le statut de la maison Gallimard. La maison Gallimard, c'est la collection blanche, c'est la collection noire, c'est tout un tas de collections anciennes, fameuses, mythiques et cultes. Mais la situation dans ce marché-là de la maison Gallimard est peut-être moins connue.
Je pense que Antoine Gallimard a été confronté dès son arrivée à des défis très importants. D'abord, un défi par rapport à l'héritage, cette maison qui avait traversé le XXe siècle de façon glorieuse et qui avait publié la plupart, surtout dans la première moitié du siècle, la plupart des grands écrivains français et étrangers qui ont compté, qui comptent toujours. Donc il s'est retrouvé à la fin des années 80 avec ce défi de faire vivre cette maison presque mythique. Et je trouve, en toute sincérité, qu'il s'est vraiment très bien débrouillé. C'est-à-dire qu'il a réussi à ne pas perdre ce capital d'estime que la maison avait su recueillir en publiant vraiment les grandes œuvres de la littérature. Et il a su adapter la maison et le groupe, puisque c'est devenu un gros groupe éditorial, aux nécessités de la nouvelle économie et de la concurrence qui prenait une forme différente. Autrefois, il y avait une concurrence, disons, loyale et amicale avec des maisons comme Grasset, Le Seuil. Moi, quand je suis arrivé chez Gallimard, notre alter ego, c'était Le Seuil. Ça a changé. Après, il y a eu Actes Sud. Il y a toujours des maisons très valeureuses et des petites maisons qui se créent. Enfin, je pense à Philippe Ray, par exemple, qui fait un travail remarquable. Mais il y en a beaucoup d'autres. Et Gallimard est devenu un groupe, c'est-à-dire que par rapport à la nécessité de s'armer contre ces énormes machines qui sont autour de nous, qui domine de très loin le paysage éditorial, et il fallait se renforcer. Gallimard a racheté Flammarion, Minuit, POL, beaucoup de maisons d'édition de grande qualité, parce que c'était nécessaire de se renforcer, de se fortifier dans un marché qui est très concurrentiel et dominé, encore une fois, par des gens qui sont totalement habités par la logique libérale. Donc, bien sûr, Gallimard fait du commerce, hein, comme disait Malraux. Il le disait à propos du cinéma, mais il disait, par ailleurs, le cinéma est une industrie. Bon, l'édition est une industrie aussi. On fabrique des livres et puis on a quand même intérêt à les vendre. Mais la base, le foyer incandescent de cette activité, ça n'est pas le commerce. C'est l'art, c'est la littérature. Et ça doit le rester.
Il y a un sujet qui pointe son nez, là aussi, depuis quelques années dans le monde de l'édition, Jean-Marie Laclaftine, c'est celui de la surproduction de livres. Il y aurait trop de livres édités. La maison Gallimard pourrait être concernée par ce sujet-là. Vous vous positionnez comment par rapport à ça ?
Je pense qu'il y a une part de vérité. Et c'est vrai que nous publions énormément et que nous sommes entourés de libraires qui sont vraiment nos alliés très proches, qui nous supplient de réduire la production parce qu'ils n'y arrivent plus. Ils n'arrivent plus à absorber tous les livres que nous produisons. Quand je dis nous, c'est les éditeurs d'une façon générale, mais Gallimard est tout à fait concerné. Et la tentation est grande, et d'ailleurs Antoine donne cette directive aux éditeurs de la maison d'essayer de publier moins. Moi, je ne suis pas contre, hein. Je pense que en effet, il y a une part de folie à voir les rentrées littéraires où apparaissent 500 titres nouveaux. C'est absurde, c'est aberrant parce qu'il y a une perte, une casse gigantesque. Mais en même temps, ce que je redoute, c'est que si on réduit la production, on élimine
ceux qui ne se vendent pas.
Voilà. Et qu'on aille vers des choix qui seront guidés plus ou moins consciemment par les lois du commerce et de la réussite. Et ça, ça me fait peur. Ça me fait peur. Et je pense que nous ne sommes pas à l'abri, même nous, Gallimard, même au comité de lecture, de laisser jouer comme ça des craintes plus ou moins conscientes, qui affleurent, craintes de publier des livres qui ne vont pas marcher commercialement, je veux dire. Or, le problème, c'est que Gallimard a fait sa fortune avec des livres invendables. C'est ça qu'il ne faut jamais oublier. C'est-à-dire que nous avons été capables d'attendre avec une grande patience qu'une œuvre se déploie et il faut parfois attendre 5 ans, 10 ans, 15 ans avant qu'un livre ait du succès, qu'un auteur trouve son public. Et si on n'a pas eu la patience d'attendre, eh bien c'est une grande perte pour la littérature, pour l'édition. Et encore une fois, Gallimard a fait fortune comme ça. Et ça, c'est le travail éditorial tel qu'il doit être pratiqué. Et c'est très difficile à faire comprendre aux jeunes générations peut-être, ou à des gens qui sont formés différemment, qui conçoivent le travail éditorial comme une activité commerciale en grande partie et qui cherche avant tout le coup, COUP, le livre qui va marcher instantanément, qui va casser la baraque. Mais ça peut pas être ça, l'édition. Quand ça casse la baraque, c'est une grande chance et c'est merveilleux. Je n'ai évidemment absolument rien contre le succès, mais ça ne peut pas être notre axe de travail, notre priorité. Ça ne peut pas être ça.
Surtout que vous n'avez rien contre Jean-Marie Laclaftine, ce serait difficile autrement parce que vous n'avez pas fait des livres invendables, en tous les cas, pas que des livres invendables, et un certain nombre des livres que vous avez édités dès le début ont rencontré un formidable succès. Est-ce que vous diriez honnêtement que vous avez été toujours très surpris par ces succès, ou est-ce que quand même on construit un livre d'une certaine façon pour qu'il ait un prix, pour qu'il obtienne quelque chose ? Je sais bien que Daniel Pénac, votre ami, dit que vous êtes un incorruptible, mais je suis bien obligée d'aller vous chercher un peu.
Je me souviens, par exemple, on a cité son nom lors des émissions précédentes, de Muriel Barbory. C'est vraiment un exemple tout à fait intéressant et joyeux, puisque ça s'est bien passé pour elle. Mais je précise quand même que beaucoup des livres que j'ai publiés n'ont pas eu de succès. C'est vrai, et ça, à chaque fois, c'est un chagrin. Enfin, c'est quelque chose de difficile, parce que c'est mal vécu par les auteurs quand le livre ne marche pas.
Ils disent que vous n'avez pas fait assez.
Oui, voilà, mais ça, on n'y peut rien, et c'est vraiment un tourment. Et donc Muriel Barbory, je me souviens de son premier roman.
Une gourmandise.
une gourmandise qui est arrivée par la poste, comme la plupart des manuscrits. Gallimard reçoit des milliers, mais vraiment par la poste ou par la poste électronique. Donc, il est arrivé. J'ai été enthousiasmé par ce livre. Ça me plaisait beaucoup. Il y avait à la fois, elle parlait de nourriture. C'était extrêmement sensuel dans la description, puisque le personnage central est un critique gastronomique. Et puis, il y avait une façon de décrire les plats, le plaisir, et c'était en même temps raconté avec beaucoup d'ironie, une ironie assez féroce. Et donc, j'ai vraiment aimé ce livre. Bon, il a plutôt bien marché. Il a surtout été beaucoup traduit, ce qui était une surprise. Mais je n'espérais pas particulièrement un succès mondial. Hein. Et quand elle m'a donné l'élégance du hérisson, là, vraiment, j'y ai cru. Là, je me suis dit, ce livre-là, il est fait déjà pour les prix littéraires. Si elle n'a pas le féminin avec ça, par exemple, c'est que vraiment, ces dames n'y comprennent rien. Et il y avait d'ailleurs une jurée du féminin au comité de lecture à l'époque. Et donc, j'ai vraiment plaider au comité, j'ai mis toutes mes forces, tout ce que j'avais de talent, de persuasion pour parler de ce livre devant le comité, devant Antoine Gallimard, en disant vraiment, ce livre doit marcher, c'est un tel bonheur de lecture. Et quand le livre est sorti en septembre, il ne s'est retrouvé sur aucune liste de prix. Il a très mal marché au début et j'étais absolument mais consterné. Je me disais, mais c'est fou, c'est tellement bon de lire un livre comme ça, c'est tellement réjouissant. Et puis là, il s'est passé quelque chose de tout à fait curieux qui reste un phénomène éditorial très, très, très atypique. C'est que on a regardé les chiffres de vente. En septembre, ils étaient très bas. En octobre, ils ont monté un petit peu. En novembre, ils ont continué à monter, ce qui est tout à fait inhabituel pour un livre qui n'a pas accroché au début. Il aurait dû s'écraser lamentablement dans le marigot des pertes et profits. Et il a continué à monter. En décembre, je me souviens que le directeur commercial est venu me voir. Il m'a dit, tu as regardé? Tu as vu les chiffres? Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose de pas normal. Et en effet, les ventes ont continué à monter, mais à monter de façon exponentielle. Et c'est devenu un succès, non seulement en France, mais dans le monde entier. Alors ça, c'est le genre d'histoire, évidemment, qu'on aime raconter, parce que c'est tellement, ça nous console tellement de beaucoup d'échecs, quand même.
Est-ce que vous êtes intéressé au succès quand il y a un best-seller? Est-ce que l'éditeur touche quelque chose en plus?
Non, enfin, si c'est arrivé, ça arrive là-dedans. En l'occurrence, quand il y a un succès comme ça, mais c'est un peu le bon vouloir d'Antoine. Hein,
c'est le cadeau voilà. De Noël.
Oui, oui.
C'est la prime.
Oui,
mais parce que,
bah, c'est normal.
Enfin,
voilà. Mais ça n'est pas.
T'as pas une constante.
Figé dans le.
Et ça non plus, c'est pas dans votre contrat.
Non.
Merci Jean-Marie Leclaftine. On se retrouve demain pour la dernière. On parlera de vos engagements et de vos dégagements, on va le dire comme ça.
D'accord.
À demain.
À demain.